Chapitre 47. Nicolas avait vu le matériel, les deux phalanges et les cassettes extraits du puits par les équipes de Fortran. Les hommes en tenue en étaient sortis comme après une lointaine expédition souterraine. Pendant l'opération, pas un technicien, pas un flic parmi la dizaine d'individus présents n'avait parlé. Nicolas demanda qu'on embarque le magnétoscope et toutes les cassettes. Il connaissait un cinéphile dans le service, spécialiste des films d'horreur ou gore, qui pourrait l'aider à en savoir plus sur cette sinistre collection. Lucie et Audra étaient remontées, marquées par leur découverte, l'air sombre. Quant au soleil couchant, les véhicules s'étaient remis en route, l'aile froide du silence survolait les plaines battues par le vent d'ouest. Il avait fallu retourner au bastion. Le groupe Charcot tout entier accusait le coup de cette nouvelle journée. Franck finissait son interminable réunion avec les flics des autres SRPJ et les juges d'instruction. Lucie était repartie plus tôt, si l'on considérait que 20 heures l'était pour un samedi. La nourrice des jumeaux partageait un dîner familial et ne pouvait assurer la garde de ses fils. Pascal était venu dresser un bilan après l'autopsie de Demonchaud, puis, fatigué, avait plié bagage avec ce constat terrible « ça n'en finira donc jamais ». Le rapport d'autopsie du punisseur n'arriverait pas tout de suite, mais Pascal avait expliqué, outre l'aimant sous le majeur droit, la phalange de l'auriculaire gauche sectionnée, Demonchaud devait porter la même puce que Chevalier sous la peau du poignet gauche, mais elle avait été endommagée par l'impact d'une balle calibre de 9 mm ayant explosé le radius. Le légiste avait relevé de nombreuses traces d'injection au niveau des biceps droit et gauche, et certaines parties de ses muscles étaient surdéveloppées par rapport à d'autres. Mais le renforcement des fibres était anarchique, bosselant et creusant le biceps comme un steak mal cuit. Le médecin n'avait jamais vu ça, et à l'évidence, Demonchaud s'était injecté des substances dont la composition, l'espérait-on, ressortirait lors des analyses toxicologiques. Le cadavre de son chien était entre les mains d'un vétérinaire. L'ADN des doigts, ainsi que ses étranges kits de biologie, étaient partis pour le laboratoire de police scientifique Quai de l'Horloge, avec une demande d'analyse en priorité haute. Nicolas avait transmis les cassettes vidéo à son collègue cinéphile, qui était reparti avec la pile sous le bras, promettant de s'en occuper à son retour, lundi. Bélanger lui avait demandé de prêter une attention particulière aux deux films récupérés dans le souterrain. À la lueur de sa lampe de bureau, il parcourait le carnet à dessin trouvé chez Demonchaud. Face à lui, Audra était toujours là, le nez dans la paperasse. Une lumière bleue se reflétait dans ses pupilles. On approchait les 21 heures et elle n'arrêtait pas de bâiller. Lui se concentrait sur le dessin de l'aigle dévorant le foie. Une représentation mythologique, il en était certain. Il trouva son bonheur sur Internet. Le mythe de Prométhée. Un bruit devant lui. Nicolas releva ses yeux brillants vers Audra, debout devant son bureau. Elle était emmitouflée dans son manteau et tenait une pochette sous son bras. « Alors ?» Nicolas referma le carnet. « Alors pas grand-chose. » Il fit mine de s'intéresser à son écran, déclenchant quelques clics de souris. Audra comprit qu'il ne souhaitait pas lui parler. « Bon, j'ai jeté un œil à la paperasse, » fit-elle. « Sur sa feuille d'impôt, il n'est ni marié ni paxé. Pas de signe d'une éventuelle femme dans sa vie. Donc, pour le moment, aucun moyen de savoir à qui appartient le doigt à l'ongle verni dans le bocal. On n'a aucune trace de téléphone portable ni d'abonnement. Il y a une box Internet, mais pas d'ordinateur. » Peut-être qu'il le planque quelque part. Ça donne le profil d'un mec ultra prudent. J'ai aussi recherché sur le web pour la société où il bosse, IDF Med. C'est une boîte qui fournit des produits et du matériel de laboratoire de pointe dans le domaine médical sur l'ensemble de l'Île-de-France. Apparemment, Ils sont spécialisés dans le domaine de la gynécologie, la PMA, et travaillent avec les maternités, les laboratoires d'analyse médicale, les cabinets et un paquet de cliniques privées. Fermées aujourd'hui et demain, évidemment. Il l'écoutait à peine. Les labos de police scientifique ne rendront pas le moindre résultat avant lundi. Les administrations seront fermées et... Elle hésita. Demain, c'est dimanche, et Franck ne veut pas me voir ici. Je me disais que... Enfin, si tu veux, tu pourrais peut-être me montrer un ou deux trucs sympas dans Paris. Ça fera du bien de prendre l'air et de penser un peu à autre chose.
Désolé, j'ai déjà prévu des trucs, répliqua Nicolas du tac au tac.
Elle prit l'affront comme il lui arriva, en pleine figure.
Ok, on se voit lundi alors.
Voilà. Elle retourna à son bureau d'un pas vif et embarqua son thermos de thé. Avant de sortir, elle s'arrêta, puis hocha la tête vers le sac de sport.
« Je suis désolé pour ta péniche. Je suppose que tu as un endroit où aller. »«
Chez les Charcot. Ils ont une chambre d'amis. » Elle lui adressa un sourire crispé, puis sortit. Nicolas la regarda s'éloigner dans le couloir. Il s'en voulait d'être si dur avec elle, mais il était incapable de la cerner, de comprendre son jeu. Un jour, elle le jetait comme une vieille chaussette, et le lendemain, elle voulait crapahuter avec lui. Il alla se remplir un gobelet d'eau dans la salle de pause. L'étage était presque vide, et dans ces instants de grâce, Nicolas se sentait bien. Il alla à la fenêtre. En bas, la fine silhouette de sa partenaire longeait la rue d'un pas pressé. « Qui es-tu, Audra ? Après quoi cours-tu ? » Il l'observa aussi longtemps qu'il put et retourna à sa place. Il revint sur le dessin du carnet. L'aigle, penché sur le foie de l'homme nu. Le mythe de Prométhée. Prométhée était un titan dont le frère Épithémée avait distribué des facultés à tous les animaux en oubliant de donner un don aux hommes. Si les tortues avaient des carapaces pour se protéger, les lapins la capacité de creuser des terriers pour survivre, les humains, eux, se retrouvaient nus, sans plan de secours. Alors Prométhée, pour réparer l'erreur fraternelle, vola le feu sur l'Olympe pour l'offrir aux pauvres mortels, faibles et vulnérables. Dès lors, l'homme acquit la connaissance, la force, la capacité de détruire aussi, développa sa supériorité sur tous les êtres vivants et devint presque l'égal des dieux. Jaloux du succès des hommes, Zeus fit enchaîner Prométhée à un rocher et le condamna à se faire dévorer le foie par un aigle. Un foie qui se régénérait chaque nuit et impliquait une souffrance sans fin. Nicolas resta immobile, les yeux rivés sur le dessin. L'homme créateur, l'homme destructeur. L'homme égal des dieux. Où se plaçait de Monchaux dans ce schéma? Pourquoi ce mythe avait-il autant d'importance pour lui? Qu'avait-il voulu exprimer à travers sa scène de crime? Qu'il était un dieu punisseur? Une demi-heure après le départ d'Audra, Chaco passa la tête dans l'embrasure de la porte, de petits lacs de boue en guise de cerne. Il lui signala qu'il se mettait en route. Nicolas éteignit son écran, remit le cahier dans l'armoire avec les pièces à conviction et embarqua son sac de sport. Les deux hommes s'avancèrent vers l'ascenseur.
« Alors, cette grosse réunion ?» demanda Nicolas.
Charcot appuya sur le bouton.
« Un bordel. Je ne t'explique pas. On ne sait pas. On cherche tous le lien entre le môme et le cadavre d'une femme d'environ 45 ans, inconnue, dont on a un pseudo-portrait robot. Boetti, celui qui gère le dossier GPA, va fouiller dans la famille de la mère du bébé, Émilie Robin, pour voir si elle n'a pas un proche disparu, une tante, une sœur, une cousine, qui pourrait être la victime de l'étang. On a réussi à convaincre les juges d'instruction d'autoriser un comparatif ADN entre les échantillons de Lucas et ceux de la victime de l'Essonne. Ces échantillons sont déjà au laboratoire de Bordeaux, ça va faciliter les procédures. Les scientifiques vont comparer les chromosomes X ou Y. Il y a des histoires d'ADN mitochondrial aussi, afin d'établir des filiations possibles. Bref, s'il existe un lien génétique, ils le découvriront.
Les portes s'ouvrirent. Ils s'engagèrent dans l'ascenseur. Charcot se regarda dans le miroir et dénoua sa cravate dans un souffle.
« Il faut qu'on découvre ce secret, ou ça va me rendre marteau, comme le requin dessiné sur la porte. Au fait, tu peux me le dire maintenant. Et promis, je ne m'énerverai pas. Qui a fait ça ?»